décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 13, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Nico.
Salut Simon.
Et bonjour à vous.
Simon, on t'a déjà reçu dans la rue de presse, tu passes à la maison une fois de temps en temps, et donc on a toujours plaisir à te recevoir. Donc Manu, au sommaire, qu'est-ce qu'on a ?
Alors pour cette semaine 13, on a 6 articles assez sympathiques.
Alors, on commence par Le Figaro, Peertube, une tentative d'alternative française et décentralisée à YouTube, par Pauline Verge.
Une tentative française d'alternative, c'est quand même sympa. Le Figaro qui parle de logiciel libre développé notamment par Framasoft, pour essayer de faire concurrence à YouTube, c'est assez sympathique.
Usbek et Rika, Cédric Villani, je n'ai pas peur de la singularité technologique, par Fabien Benoît.
Il est bien le seul.
C'est le sujet qu'on va essayer d'aborder un peu plus tard, l'intelligence artificielle, parce que notamment, Macron est intervenu et a fait plusieurs déclarations qui sont intéressantes à analyser.
Et il y a de la thune.
France Culture, j'ai voulu reprendre le contrôle de mes données, par Abelak El Idrissi.
Donc tout un reportage de France Culture, donc ça touche pas mal de monde, qui parle notamment de Facebook, qui est un des gros sujets qu'on a déjà abordé.
La semaine dernière.
Le monde informatique, violation de brevet Java par Google, la justice donne raison à Oracle, par Dominique Philippone.
Alors c'est rageant, c'est un sujet assez vieux dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il y a des tribunaux aux États-Unis qui avaient considéré que Google avait le droit d'utiliser Java, le Java contrôlé normalement par Oracle. Et bien là, ils remettent tout cela en question, ils remettent une pièce et ça relance le jeu, les brevets, le droit d'auteur. C'est assez compliqué, je suppose qu'on en reparlera.
La Tribune, menace sur le logiciel libre par Frédéric Duflo.
C'est la Dulac et la Fulle qui sont inquiets de ce qui se passe au niveau des législations françaises et européennes, alors notamment sur le droit d'auteur et le contrôle des données. Il y a des choses assez compliquées qui se mettent en place en ce moment.
Chronique d'architecture, qui dit libéral dit logiciel libre, par Geek de Chronique.
Un article assez sympathique en fait. Alors quand ils utilisent le terme libéral, ce n'est pas libéral au sens politique, c'est les architectes qui se mettent dans leur propre cabinet, ils sont libéraux et ils ont des problèmes parce que les logiciels qu'ils utilisent sont très chers, les logiciels propriétaires bien sûr, et que pourtant dans le logiciel libre il y a des alternatives.
Libéraux mais pas libérés.
Pas encore en tout cas, tant qu'ils n'ont pas lu l'article.
Et après, ils seront délivrés, c'est ça ?
Exactement.
Donc ces temps-ci, il y a pas mal de sujets vraiment intéressants. On parlera probablement de Peertube la semaine prochaine. Mais cette semaine, on voulait parler des IA et de la super déclaration de Macron et de Villani, tout ça, parce que c'est le sujet brûlant du moment.
Et oui, ils ont quand même fait tout un rapport assez conséquent. Il y a eu une intervention de Macron qui a été reprise par tous les journalistes, notamment pour dire qu'ils y comprenaient pas grand-chose. C'était un peu compliqué pour eux.
On va peut-être commencer déjà par définir ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc Simon, il me semble que tu as une définition assez précise de ce que c'est ou de ce que ça n'est pas.
Y a deux choses à observer là-dessus. Il y a ce que devrait être l'intelligence artificielle, ce que nous, on rêve quand on parle d'intelligence artificielle. Et puis, il y a ce qui se pratique vraiment sur les puces de nos ordinateurs aujourd'hui, qu'on observe et qu'on essaie de nous vendre comme étant ça. L'intelligence artificielle, ce serait réussir à avoir des programmes qui miment ce qu'on ne sait pas définir du fonctionnement de notre cerveau et qui nous permettent de nous adapter à de nouvelles situations et d'improviser face à de l'imprévu.
Donc l'intelligence humaine ?
Naturelle.
En tout cas, l'intelligence serait définie par ça, c'est cette capacité à sortir d'un cadre prédéfini et à faire face à l'imprévu. Alors que ce qui est réalisé aujourd'hui, c'est du deep learning avec du big data, et en gros, ce sont des algorithmes d'apprentissage en réseau de neurones qui existaient déjà dans les années 80, et qu'on a dépoussiérés, et qu'on nourrit non plus avec des centaines ou des échantillons de milliers d'exemples, mais avec des milliards d'échantillons. Alors on obtient des résultats un petit peu plus précis, on atteint des objectifs qu'on n'atteignait pas avant, mais il n'y a pas de quoi faire cocorico.
Alors il y a parmi les gens qui poussent tout cela, il y a les Google et autres GAFA qui ont des millions de serveurs, de la donnée en veux-tu en voilà, et des algorithmes qui mettent en avant et qu'ils ont libéré. Il y a TensorFlow notamment de Google qui est mis en avant et que les informaticiens peuvent réutiliser un petit peu à l'envi.
Oui mais du coup il n'y a aucune réaction à l'imprévu là.
Non, c'est ça, c'est généralement ces outils-là, quand on les titille un peu trop, ils ont des comportements pas trop normaux, ou en tout cas qu'on s'attend pas à avoir. Des fois qu'on vient présenter comme l'invention d'un nouveau langage, tiens, on a fait un robot écrivain ou peintre, mais au final, non, des fois ça donne des résultats bizarres, mais sans plus, quoi.
Alors vous ratez quand même l'essentiel, c'est que les intelligences artificielles vont tous nous tuer, quoi. Mais enfin, je veux dire, c'est pas que je suis paranoïaque.
Ah si, t'es paranoïaque,
ah,
là.
Excusez-moi,
si on leur donne un milliard d'exemples, peut-être, mais sortis de là, ils seront complètement paumés.
Alors, je dis ça parce qu'il y a quand même des gens importants, donc Elon Musk, qui est serial entrepreneur dont on parle très régulièrement, qui envoie des fusées et fait des voitures électriques, qui a, il y a un an ou deux...
Il envoie des voitures électriques dans l'espace.
Voilà.
Dans ses fusées.
Il a donc, il y a un an ou deux, fait une sorte de courrier signé par Bill Gates, signé par...
Par Stephen Hawking.
Voilà, qui est mort récemment, et qui ont dit oui, c'est le plus grand danger que l'humanité a affronté.
Donc Terminator, hein, voilà. C'est rien d'autre que cela.
Et avec cette idée qu'en mettant toute cette puissance de calcul, il y a un moment, c'est ce qu'on appelle la singularité, le machin va devenir conscient, et puis il va se dire, si je butais tout le monde.
Bah oui, parce qu'après tout, l'humanité, ça embête, et la singularité, ça fait partie de ces fantasmes technologiques assez sérieux, qui existent depuis déjà des années, et qui disent, l'humanité, on ne sait pas trop si elle sera utile ou pas utile aux prochaines intelligences artificielles de la singularité. Est-ce qu'elles seront bénéfiques ou maléfiques envers nous ? On ne sait pas.
Pour moi, il y a un souci majeur dans cette inquiétude, puisque j'ai lu cette lettre ouverte de Musk, et en fait, il n'y a pas le début du commencement d'un argument de comment ça pourrait se passer. C'est des sortes de généralités en disant « Oula, mais regardez... »
Si ça arrivait, ce serait galère. On est d'accord, mais on en est loin.
Ils savent pas, la singularité c'est un mystère encore.
Peut-être que ça arrivera effectivement un jour, mais en tout cas on parle dans des siècles ou des millénaires bien devant
alors,
nous.
Alors non, la singularité c'est supposé arriver là, incessamment sous peu, parce comme que le retour c'est du exponentiel. Christ.
Oui, mais après on rappelle quand même qu'aujourd'hui on est quand même dans les débuts de ce qu'on va appeler l'IA ou l'intelligence, et qui n'est pas du tout intelligent, c'est encore des humains qui sont à la base.
C'est les débuts qui datent des années 60. L'intelligence artificielle, ça fait 60 ans que dans 20 ans elle arrive.
Voilà, mais aujourd'hui on a les premiers usages de l'apprentissage, et aujourd'hui c'est encore les humains qui sont derrière les manettes. Ça se voit d'ailleurs dans les derniers rapports et autres, c'est qu'en fait, les algorithmes aujourd'hui ne font que reproduire ce que l'humain faisait déjà. On retrouve des algorithmes racistes, on retrouve des algorithmes qui savent pas faire la différence entre un noir, un blanc et un asiatique, parce qu'on a entraîné tous nos algorithmes sur des blancs et qu'on a oublié les trois quarts de la population mondiale. Et donc, on fait que nourrir les machines avec nos propres biais, quoi.
Oui, mais on a des algorithmes qui ont battu les meilleurs joueurs d'échecs humains, les meilleurs joueurs de Go humains, les meilleurs joueurs de poker humains.
Ils savent pas faire des courses, là.
Alors, pour le coup, c'est aussi qu'on s'aperçoit qu'il y a, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a certains domaines de nos vies qui sont effectivement facilement automatisables. Et en revanche, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. On voit la manière dont les GAFAM galèrent face aux fake news, ce genre de choses, leurs super algo, ils arrivent à rien, et ils se font entuber, et au final, on en parlait la semaine dernière, tous les petits malins qui vendent des fake news parce que ça fait de la pub derrière, finalement, c'est eux qui ont hacké le système, et c'est eux qui servent des IA, et qui ont réussi à les nourrir avec ce qu'ils avaient, eux, envie de leur nourrir.
Et on rappelle du robot Microsoft qui, en 24 heures, avait tourné nazi, hein.
Et dépressif.
Et dépressif.
Villani, donc, qui est un député, et qui a été missionné pour, en gros, parler de ce genre de choses.
Un mathématicien enthousiaste.
Voilà.
Un auteur chez Grasset.
A dit « Je ne crois pas à la singularité » et là-dessus, on lui donne plutôt raison, pas avant très longtemps. En tout cas, pour le moment, on n'a pas le début du commencement d'un indice de ce qui pourrait se passer. Et il y a un certain nombre de chercheurs en intelligence artificielle qui ne sont pas du genre Musk à se mettre partout dans les médias, etc. Qui
sont il y a un doctorant en quelque chose, Monsieur Musk ?
Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais en gros, qui dit tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Et la question, c'est surtout qui va contrôler ces IA. Et donc, on fait peur.
C'est du fantasme, on l'a dit au départ, c'est du fantasme, donc ça ne se réalisera pas. Par contre, ça fait de très bons bouquins.
Et de très bons films aussi, hein, les Terminators, le Skynet, et des bonnes séries.
Alors, l'autre chose qui est annoncée, c'est de dire, attention, ça va détruire des emplois.
Alors ça, ce sont plusieurs économistes, il y a des économistes éminents qui disent, attention, là, dans les 10 prochaines années, les 2/3 des emplois actuellement en place vont disparaître. Et en fait, c'est assez possible.
Ils vont pas disparaître, ils vont être automatisés.
Est-ce que ce serait pas un plus, hein ? Je veux dire, pourquoi est-ce que l'humain serait condamné à travailler ?
Aujourd'hui, c'est plutôt un problème de société. Aujourd'hui, effectivement, quand on n'a pas d'emploi, on est quand même mal intégré dans la société, on a des problème pour survivre en général, et donc c'est la fin de l'emploi est pas forcément un mal en soi, mais ça demande de refondre toute la société pour sortir le travail obligatoire ou le travail qui te fait monter dans la progression sociale pour le remplacer par autre chose.
C'est un problème de partage des richesses et qui est pas nouveau, hein, puisque dès qu'on a eu l'automatisation dès le 19e siècle, on sait que ça a généré du chômage, et après la question c'est comment on fait pour que les gens puissent vivre correctement. Donc l'histoire montre que les classes dominantes tolèrent très bien des gens qui crèvent de faim à côté d'eux, ça leur pose aucun problème, et on est actuellement dans une période où les inégalités sont en train de s'accroître. Il y a le bouquin notamment de Piketty qui en parle très bien, donc c'est effectivement plutôt inquiétant quoi, de ce côté-là.
C'est presque même plutôt une démultiplication, là. Ça va vite, ça se creuse beaucoup.
Oui, alors, ouais, au niveau de l'inégalité, effectivement. Par rapport au travail, moi je suis dubitatif, alors déjà parce que les économistes, leur capacité à prédire l'avenir n'a jamais été franchement très très bonne. Ensuite, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qu'on sous-estime dans le travail, et le travail qu'on va considérer ou déconsidérer, et dont on va dire oh, c'est du travail de base, hein, comme nettoyer par terre par exemple, et bien si on regarde le détail de en quoi ça consiste de nettoyer par terre, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de tâches.
Sur le sol.
Voilà. Non mais qui nécessitent d'avoir un sens critique et de s'adapter aux circonstances, ce genre de choses. Il y a un autre phénomène par rapport à cette grande déclaration, puisqu'en gros, donc Macron a dit on va mettre 1 milliard sur la table tous les ans.
1,5 milliard d'euros.
Oh la vache, oui, on n'est pas à 500 millions près. Enfin, voilà.
Soit 1/10 du budget de la Chine ou des États-Unis sur le sujet.
Oui. Oui, mais nous, on est plus brillants, donc avec moins d'argent, on fera mieux. Tu vois,
c'est, en tout cas, c'est en nous flattant, espérons que ça marche.
C'est voilà. L'idée. C'est
alors,
l'idée.
Ça sauvera la recherche.
Est-ce qu'il a parlé de coopération européenne?
Pas encore, mais peut-être que quand il va rencontrer Merkel, prochainement, ça va sortir.
Ça aurait du sens. L'autre truc, c'est qu'il y a eu des mouvements et des retournements de veste sur la question des données personnelles, je crois, non? C'est ça?
Tout à fait. Sujet assez cher à la quadrature du net. Et on constate que avec la fin de l'élaboration du règlement européen sur la protection des données personnelles,
RGPD,
tout à fait, la position exprimée par le pouvoir politique était de sacraliser les données personnelles. On parlait de vie privée, on est dans du post-Snowden, on fait une distinction entre le business d'un côté et la vie, les droits fondamentaux.
Un peu comme un organe qu'on pourrait pas vendre. En France, c'est interdit. Et il y a une sorte de sacralisation de ce qu'on peut faire avec.
Exactement. Et donc,
oui, mais
on
ça,
a
ça, c'était avant.
On a eu un discours de M. Majoubi qui nous expliquait que voilà, les données personnelles ne sont...
C'est notre secrétaire d'État au numérique. Hein, c'est ça.
Voilà. Les données personnelles ne sont pas des marchandises, ne doivent pas avoir de valeur marchande. Et puis, rapport de M. Villani, eh bien, finalement, les données personnelles, s'il y a le consentement des utilisateurs, pourquoi pas? Parce que ce que nous dit M. Villani, c'est que bah, pour faire de l'apprentissage profond, pour faire quelque chose de plus fin qu'avant avec les vieux algorithmes, il va falloir que les données personnelles coulent à flot. Et donc, le gouvernement s'oriente là-dessus progressivement, et ça, d'un coup, ça hérisse des poils à la quadrature.
Ça fait tâche. Hein.
Au sol.
Alors, effectivement. Donc, l'argument qui dit que c'est pour faire de la recherche, il est valide, mais Manu, toi, tu penses qu'on pourrait anonymiser?
Alors, on peut essayer d'anonymiser. Alors, il faut garder à l'esprit que même sans anonymiser les données, il y a déjà des tas d'erreurs, de faux positifs, de faux négatifs, et que dans l'état actuel des choses, les algorithmes sont très mauvais et qu'on n'arrive jamais à bien sortir des
avec
informations.
Avec les vraies données et en open bar, ils n'y arrivent déjà pas.
Exactement. Donc, en anonymisant un peu, en rajoutant du sable dans le mécanisme, normalement, on doit pouvoir casser un petit peu la manipulation des individus.
L'affaire dont on a parlé la semaine dernière nous laisse quand même entendre qu'on arrive quand même à faire des choses. Donc,
on arrive à faire des choses
avec Cambridge
en masse.
Analytica,
exactement,
ça va l'air quand même efficace.
Les élections, le Brexit, les élections de Trump, il y a de la manipulation en place. J'ai peur que ça, on ne l'évite pas et qu'il faille se battre là-dessus et en parler régulièrement, éduquer les gens. Mais anonymiser, ça n'empêche pas d'essayer de le faire.
Voilà. Comment on va savoir si les gens sont d'accord pour donner leurs informations? Est-ce que c'est comme d'habitude les conditions générales de vente que personne ne lit et on coche?
Il faut les lire. Tu as dit que tu les as lus quand tu as coché la case. J'ai bien lu les
avec le RGPD, tu seras quand même censé avoir la demande de consentement, etc. Mais c'est vrai que ça risque d'être un sacré merdier. Et on voit mal chaque boîte demander 100 000 consentements pour toutes les utilisations qu'ils vont faire derrière.
Alors on peut imaginer que mettre la main sur les données, c'est aussi pour faire du business avec, que ce soit l'objectif derrière, et que le RGPD puisse être un moyen pour casser les pattes des GAFAM. Qu'on peut financer cette recherche-là en leur faisant payer leurs impôts, parce qu'il y a quand même plein de pognon qui nous échappe, et que du coup, comme on a 15 ans de retard sur le sujet, on puisse, avec notre dixième de
ce règlement européen, ouais. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais il aura comme effet notamment que les entreprises aient à obtenir le consentement au préalable de leurs utilisateurs pour les usages qui seront faits de leurs données. Alors, ça paraît pas grand-chose, hein, ça a l'air d'être d'une politesse élémentaire, mais ce qui change de fondamental avec cette approche, c'est qu'elles auront besoin de savoir ce qu'elles vont en faire avant de collecter les données.
Et c'est pas simple.
Oui, puis surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Aujourd'hui, ils collectent tout en espérant faire des traitements intelligents derrière, et ben là, non, il faudra d'abord qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent en faire, et après, ils auront le droit seulement de collecter.
Cette annonce fracassante, en tout cas, nous laisse supposer qu'on va bouffer l'IA dans les mois à venir, et c'est un sujet un peu plus complexe que ce qui va
et
bien nous dire.
Et qu'on va vouloir dévaloriser les données personnelles, qu'on va essayer de nous expliquer que ça se vend comme un steak et qu'on pourra forcer les gens à les vendre.
Très bien. Simon, merci beaucoup. Merci à vous tous.
Salut.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.